États-Unis en particulier, qui ont voté le Hong Kong Policy Act en 92. Et c'est le seul point par lequel entre, si vous voulez, des biens et une activité économique en Chine. Et par ailleurs, Hong Kong est extrêmement important pour les hauts dirigeants chinois qui blanchissent l'argent de la corruption. Donc, en même temps, tout le monde a intérêt à ce que Hong Kong reste un lieu, c'est quand même une des premières places financières au monde et un lieu de commerce et d'échanges extrêmement important. Donc, si vous voulez, Pékin, là, argue du maintien de l'état de droit. Et du respect de la loi pour faire régner l'ordre. Mais justement, on est là face à une manipulation qui est propre au régime autoritaire chinois, qui est de resémantiser les mots. C'est-à-dire que pour Pékin, l'état de droit, c'est le maintien de l'ordre à tout prix. Alors que pour les Hongkongais, c'est le maintien d'un véritable état de droit et en particulier de l'indépendance de la justice.
Mais
La question très importante, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation gravissime parce que Pékin a absolument aucun sens politique de la manière dont gérer cette situation. Et donc, je pense qu'on va arriver à un point de non-retour.
Pékin, maintenant, essaye de réagir en accusant finalement peut-être d'autres pays, c'est ça, Claude?
La main de l'étranger, ça apporte de l'eau à votre moulin, parce que quand on ne sait pas expliquer une situation locale, on va chercher les influences étrangères. Écoutons ce qu'en dit la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Depuis un certain temps, il est vrai que des personnes aux États-Unis et en Europe protègent certaines des personnes violentes à Hong Kong et ferment les yeux sur leur violence. Mais pour les éléments violents dans leur propre pays, comme vous le savez, la police en Europe et aux États-Unis n'a jamais été douce. C'est deux poids, deux mesures.
Une pierre dans nos jardins. Quand les autorités chinoises parlent de la main de l'étranger, elles y croient? Elles s'adressent à leur propre opinion publique?
Alors, il y a plusieurs objectifs de Pékin. Pour l'instant, c'est de contrôler la communication. L'argument de l'ingérence occidentale, puisque ce n'est pas une ingérence étrangère, c'est une ingérence occidentale dans les mots de Pékin, a vraiment,
on connaît l'histoire de la mise sous tutelle de la Chine.
A vraiment est extrêmement importante depuis ces 48 dernières heures. Il y a même un lien qui est fait, par exemple, avec le printemps arabe en disant « Vous avez voulu renverser les régimes autoritaires du Moyen-Orient. » Alors, évidemment, l'adjectif autoritaire n'est pas utilisé. « Et vous voulez désormais renverser le gouvernement à Hong Kong. » C'est un argument classique de la Chine pour essayer de décrédibiliser un mouvement. Mais il y a d'autres objectifs de la Chine. Il y a l'objectif vraiment de contrôler la communication. L'argument, enfin, l'information que vous donniez tout à l'heure sur le caveau qui a été profané, en réalité, on n'a pas la certitude qu'il a été profané et surtout que ça a été fait par des membres des mouvements pro-démocratie. Donc il y a une vraie volonté de Pékin de contrôler la communication.
Pour le coup, ça venait pas d'un journal pékinois, mais français tout à fait honorable.
Bien sûr, mais qui a été pris à la base, justement, de médias chinois et de certains médias hongkongais. Ce qui est sûr, la volonté de Pékin, c'est de vraiment contrôler le discours et vraiment de le mettre dans un cadre particulier.
Alors pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong, nous avons ouvert notre grande boîte à archives. Et en 1997, au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, et bien en fait, on se demande si tout était déjà écrit.
L'histoire en marche et les Hongkongais qui la regardent passer. Ce matin, dès l'aube, l'armée populaire de libération reprend possession de la colonie britannique. À l'appel du comité de quartier, les riverains sont tombés du lit pour venir acclamer les nouveaux maîtres du territoire. Des militaires à la tête remplis de leur mission, laver l'affront infligé par les Britanniques lors des guerres de l'opium au XIXe siècle.
Après 150 ans de contrôle colonial sur Hong Kong, je voulais voir les soldats arriver, leur souhaiter la bienvenue et admirer la puissance de leur armée.
D'autres Hongkongais se sont émus de voir surgir ces blindés, rappelant ceux de la répression du mouvement de Tiananmen en 1989. Mais ce contingent de 4500 hommes ne touchera pas aux questions de sécurité publique. Il vient simplement affirmer le changement de souveraineté sur Hong Kong. De la façon la plus voyante, sur terre comme en mer, pour montrer que le jour J, tant attendu par Pékin, est enfin arrivé.
Voilà, ça c'était en 1997 donc.
Et Jean-Paul Chang, on a beau parler d'un pays, deux systèmes, quand on voit ces images militaires, quand on voit ces discours sur le colonialisme qui a été repoussé, tout était déjà écrit. Hong Kong est destinée à devenir pleinement chinoise.
Ce qui est écrit, c'est que c'est dans le principe de un pays, deux systèmes, un pays est écrit désormais.
Et un seul système en 2047.
Voilà, donc maintenant, ensuite, on savait déjà, en 1997 déjà, que un pays, deux systèmes, par moment, ce sera un peu plus un pays, par d'autres moments, ce sera plus un peu plus deux systèmes. Enfin, je veux dire, c'est toujours un équilibre fragile.
Mais
aujourd'hui, on vit une crise.
Quand on regarde la situation, oui. L'étouffement du Tibet, la répression anti-musulmane au Xinjiang, les visées de Pékin sur Taïwan qui est en sursis, et ce qui se passe maintenant à Hong Kong, qui peut arrêter la machine chinoise à éradiquer toute différence dans son empire?
Ben, je ne sais pas, vous voulez faire une guerre contre la Chine, c'est possible. Hein. Donc, cette boîte à outils dans laquelle on
ce
met...
que vous dites, c'est qu'un musulman du Xinjiang n'a aucun espoir.
Mais non, mais
c'est
pas ce que je veux dire, c'est que quand vous mettez une boîte à outils dans laquelle vous mettez Tibet, Xinjiang, Taïwan, machin, et vous rajoutez Hong Kong en même temps, je veux dire, c'est un discours qui me paraît d'une simplification absolue. Je veux dire, bon, alors évidemment, c'est facile ensuite de jouer sur l'émotion, la passion pour la démocratie et la liberté de tout le monde. Mais je veux dire, la réalité géopolitique est un peu plus compliquée. Hong Kong, évidemment, je veux dire, fait partie du territoire chinois et la souveraineté chinoise ne sera pas remise en question. Pékin ne s'inquiète pas du tout. Moi, ce que j'ai remarqué, effectivement, depuis quelque temps, c'est une certaine confiance politique, finalement, qui règne à Pékin, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que le discours est plutôt posé. C'est-à-dire qu'ils se disent finalement qu'il faut jouer sur le pourrissement, sur la majorité silencieuse, qu'à un moment donné, l'ensemble de ce désordre va conduire à un point culminant, comme dit Clausewitz, à partir duquel, finalement, le reflux va s'installer. Donc, ils jouent sur le long terme. C'est-à-dire que, bon, sur le court terme, ils donnent un peu plus d'encouragement au gouvernement local, mais le gouvernement local a encore des marges de manœuvre. Donc, je veux dire, on n'est pas dans une situation de crise dramatisé à l'extrême, comme certains peuvent le souhaiter.